Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Le Guédois. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Tu m'avais dit lors de l'échange un petit peu de préparation que tu travaillais aussi parfois pour des clients à construire leur équipe de dev. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que tu fais dans ton quotidien?
Effectivement, on accompagne des clients, que ce soit sur leur activité de développement logiciel ou sur l'externalisation de cette activité. Alors, quand on les accompagne, on peut avoir des clients qui, ça peut être des startups, ça peut être des groupes beaucoup plus construits, qui ont en fait une forte activité de développement logiciel et qui souhaitent internaliser cette activité-là. Et dans ce cadre-là, eh bien, ils vont pouvoir demander à ce qu'on crée ex nihilo une équipe de développement logiciel, ce qui est toujours une mission absolument passionnante.
Et dans ce genre de mission, ce qui m'intéresse de voir un petit peu, c'est d'abord quels sont les challenges que toi tu vois dans ce genre de mission, et puis surtout quels sont les challenges que toi tu vois, que tu connais et que ne voient pas ou ne connaissent pas bien forcément les clients qui font appel à toi.
Bien, la grande question, ça va être la question culturelle. C'est-à-dire que ces entreprises-là, souvent, elles savent recruter. Elles ont déjà recruté des salariés, elles peuvent déjà avoir un service RH, parfois elles peuvent avoir des centaines, voire des milliers de salariés, et pourtant recruter une équipe de développement, ça leur fait un peu peur, et quelque part, j'aurais dit dire tant mieux. Parce que je pense qu'on a tous vu dans nos expériences professionnelles précédentes, l'entreprise qui avait une très grosse confiance en elle, qui travaillait dans un secteur d'activité complètement autre et qui, à un moment, décide de lancer son activité de développement et donc va aller recruter un développeur junior ou une succession de stagiaires, comme ça se trouve beaucoup, avec des projets qui souvent sont de très mauvaise qualité, qui fonctionnent très mal. Et du coup, c'est plutôt une bonne chose quand les entreprises s'inquiètent du fait de devoir recruter une équipe de développement. Donc voilà, ça c'est l'enjeu, et l'enjeu est culturel parce que quand on est une entreprise qui fait de la logistique, nos critères de recrutement, c'est pas forcément les mêmes que quand on va vouloir recruter des développeurs.
C'est-à-dire concrètement, comment tu traites ce point en fait?
Ben, déjà, il y a des aspects relativement simples, si on recrute un développeur, il va falloir se poser la question de la suppléance. Et c'est quelque chose qui est très basique.
Attends, qu'est-ce que tu appelles la suppléance? Le fait de pouvoir prendre le relais, un truc comme ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire quand ce développeur-là ne va pas être là?
Tu veux dire qu'il prend des vacances? Non, mais ça ne va pas, non?
Oui, c'est ça. Il prend des vacances, il peut partir. On a des développeuses qui ont des congés maternité, etc. Et comment est-ce qu'on poursuit l'activité? Alors, bien dans un certain nombre de métiers, cette poursuite d'activité ne pose pas beaucoup de soucis. Si on a un cariste qui transporte des marchandises dans un entrepôt, en fait, on va trouver quelqu'un qui a la qualification de cariste. Il y aura le responsable de l'entrepôt qui va lui expliquer les règles de sécurité, comment ça fonctionne. Et c'est parti. C'est-à-dire qu'après
en deux heures, il est prêt à tourner. Quoi.
Ouais, c'est ça. En une heure, deux heures, il est prêt à tourner. Dans le développement logiciel, on a toute une transmission de connaissances qui doit être faite. Et du coup, si on fait un copier-coller de ce raisonnement-là en se disant un développeur en 24 ou 48 heures, il va reprendre le travail d'un autre qui a travaillé pendant 6 mois ou un an sur un projet, ça ne va pas marcher. Et voilà, ça, c'est typiquement les différences culturelles. Il y en a d'autres. Hein. Les développeurs, ça reste un public un peu particulier. Ce sont des gens qui aiment créer, qui aiment expérimenter, qui aiment apprendre. Et il va peut-être falloir leur laisser un peu de lest de ce point de vue-là. Je donnerai d'autres exemples. Par exemple, le rapport à l'ordinateur. Le rapport à l'ordinateur est très particulier. Votre comptable, il a un ordinateur, tant que ça fonctionne, il est content. Le développeur a un rapport à sa machine qui est souvent beaucoup plus spécifique.
Ouais, moi je suis toujours fasciné de ces boîtes qui te verrouillent à bloc les ordinateurs. À chaque fois, j'ai envie de m'insurger, mais bon, après, chacun fait ses choix. Hein. Mais je pense que, tu vois, rien que pour un critère comme ça, Si j'avais pas le choix de ma machine, si je pouvais pas contrôler ma machine, je crois que je ne pourrais pas bosser dans une boîte, en fait.
On est à peu près dans le même cas. Mais c'est là où on commence à voir les injonctions contradictoires qu'il va falloir lever quand on va accompagner la création d'une équipe. Mais on le voit même dans des ESN hein, qui vont dire on va chercher un expert Linux. Donc, a priori, quelqu'un de passionné qui maîtrise ça, qui est très bon, qui a souvent une culture en termes de sécurité informatique qui est assez élevée, etc. Et le jour où il arrive dans les murs pour être expert Linux, administrateur système Linux, comme on veut, on va dire, mais ta machine va fonctionner sous Windows, parce que tout le monde fonctionne sous Windows, tu n'as pas le choix, c'est le choix de l'entreprise. Première injonction contradictoire, et donc première source de souffrance, et j'allais dire première absurdité organisationnelle. Il n'y a rien qui peut le justifier. Il n'y a rien. Ce n'est pas des questions de sécurité informatique, puisque la personne, a priori, elle maîtrise très très bien sa machine. S'il y a une attaque qui arrivera, ce ne sera pas par lui qu'elle va arriver, l'attaque. Et donc, il n'y a rien qui le justifie, si ce n'est cet amour pour l'uniformisation. C'est-à-dire que tout doit être identique.
Ah, c'est intéressant ça. Là, tu viens sur un sujet qui me plaît, ça. Parce que pour moi, l'uniformisation, ça rejoint la notion industrielle. Tu vois, c'est vrai que ce besoin de standardiser, souvent je l'entends accompagné de mots comme factory, industrialisation. Moi, c'est des mots qui, tu vois, qui me donnent des boutons, en fait, parce que l'industrialisation, c'est reproduire des millions de fois la même chose. Et j'ai une vision où on n'écrit jamais deux fois la même ligne de code, tu vois. Donc,
Bien sûr. Alors là, je vais faire ma petite citation préférée. On ne développe jamais deux fois le même logiciel, autrement on l'installerait. Mais effectivement, et d'un autre côté, il y a certaines activités qui sont hautement reproductibles. Par exemple, installer une fonctionnalité sur un projet, c'est la même chose qu'installer une fonctionnalité sur ce même projet. Et donc c'est là où on doit commencer.
Qu'est-ce que tu veux dire là? Je suis pas sûr de te suivre.
Ben, développer, c'est toujours différent. Installer, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que mon process d'installation ou de mise en production ou de mise à jour de mon logiciel doit être hyper standardisé, doit être automatisé, je dois pouvoir l'exécuter plusieurs fois par jour si j'ai besoin. Et donc, j'ai dans cette activité-là, mon activité de développement logiciel qui est de la conception de quelque chose qui ne peut pas être uniformisé. Et en même temps, j'ai une activité de mise en production qui est complètement uniformisable.
Et du coup, tu crois que ça crée une confusion pour ceux qui sont pas du métier, qui se disent bon, on standardise tout et puis basta?
Oh, je pense que ça va même pas jusque-là. C'est non seulement les personnes n'ont pas la compétence, mais c'est surtout une question de vision du monde. C'est-à-dire que pour eux, l'uniformisation, c'est des gains de coûts, d'échelle, etc. Sauf que l'uniformisation, c'est un appauvrissement.
Ouais, c'est intéressant ça, parce que tu vois, quand si tu dois négocier, il y a une part de vrai là-dedans, c'est-à-dire que si tu négocies la même machine à des dizaines ou des centaines d'exemplaires, tu fais des économies d'échelle, alors que si tu vas aller acheter tes machines une par une, tu vas les payer plein pot.
Bien sûr, mais
Mais toi, tu dis c'est un appauvrissement, c'est intéressant en termes de diversité?
oui, c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai trois équipes dans une entreprise et que chaque équipe a un langage de prédilection, si j'uniformise tout le monde sur le même langage, déjà, ceux qui ne veulent pas travailler avec ce même langage, est-ce qu'ils vont rester? C'est une question qui se pose, quand bien même ils sont bons. Et puis l'autre question, c'est que quand bien même on arriverait à tout uniformiser, quels sont les gains? C'est une autre question. Et puis l'autre question, c'est en fait, on a perdu la connaissance de deux langages. Et donc après, on va arriver à des phénomènes complètement paradoxaux. D'un côté, on va aller vers l'uniformisation à marche forcée. Et d'un autre côté, on va demander aux gens d'aller se former, de passer des certifications pour acquérir des connaissances. Là encore, injonction contradictoire, c'est bizarre.
Eh bien écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci Frédéric.
Merci à toi.
Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où?
Il y a un site internet, leguédois.fr, et puis autrement, il y a LinkedIn et Twitter.
Ok, super, on mettra tout ça dans la description. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, je t'invite à venir sur artisandéveloppeur.fr. Je t'ai concocté une petite liste de questions à poser en entretien pour identifier les bons plans des faux bons plans. Comme ça t'évitera ce genre de mauvaises surprises avec des petites différences culturelles. C'est sur artisandéveloppeur.fr, tu fouilles un peu, il y a un truc qui s'appelle 7 questions. Et ça sera d'ailleurs, je pense, artisandéveloppeur.fr/7 questions au hasard. Je te remercie et je te dis à demain.